Vous êtes sur France Culture, le journal de 6h30 par Clara Lecoq-Réal. Bonjour.
Bonjour Toufik, bonjour à tous. Les conservateurs du patrimoine, accompagnés des pompiers, pourront récupérer sans risque des sculptures et peintures dans la cathédrale Notre-Dame de Paris d'ici demain. Et d'ici là, l'enquête continue. Nous vous expliquons comment elle se déroule 3 jours après l'incendie. Nous nous interrogerons aussi sur les dons pour la reconstruction de la charpente du toit de la flèche de la cathédrale. Ils dépassent les 850 millions d'euros. Dans ce journal également, zoom sur l'étude du SNES à propos de la réforme du lycée. Elle n'empêchera pas les inégalités entre élèves, dit le syndicat. Et puis nous irons à Strasbourg avant la dernière session plénière du Parlement européen. Les eurodéputés hier ont voté un texte contre les contenus terroristes sur le web. Mais l'on commence par ce suicide au Pérou hier, suicide d'un ancien président du pays, Alan Garcia. Cela s'est passé lorsque la police a voulu l'interpeller dans le cadre d'une enquête pour corruption. Président de 1985 à 90, puis de 2006 à 2011, Alan Garcia a voulu échapper à la justice, Eric Sanson.
Le Pérou est encore en état de choc et le président Martin Vizcarra a décrété 3 jours de deuil national. Le corps d'Alan Garcia, âgé de 69 ans et père de 6 enfants, est arrivé hier soir dans les locaux de son parti, l'Alliance populaire révolutionnaire américaine. Il sera veillé toute la nuit par ses proches et ses partisans qui ont jeté des fleurs blanches sur le cercueil à son arrivée. Alan Garcia était accusé d'avoir touché les pots de vin du géant brésilien de la construction Odebrecht pour lui faire obtenir le contrat de la première ligne de métro de Lima. Les principaux dirigeants d'Odebrecht ont signé un accord de remise de peine avec le parquet péruvien en échange de leurs témoignages. Selon eux, ces paiements passés par des fonctionnaires très proches d'Alan Garcia, comme Luis Nava, ex-secrétaire général de la présidence durant son 2e mandat, ou encore l'ex-vice-président Miguel Atala. La veille de sa mort, dans une entrevue avec Radio Programas del Perú, Alan Garcia a protesté encore de son innocence en parlant de spéculation. En fin d'année dernière, il avait tout de même essayé d'obtenir l'asile en se réfugiant dans l'ambassade d'Uruguay à Lima. Il ne l'avait pas obtenu et avait été interdit de quitter le pays pendant 18 mois.
Le scandale Odebrecht qui fait trembler toute l'Amérique latine, l'Argentine notamment en proie à une forte inflation ces dernières années. En un an par exemple, les prix ont augmenté de moitié. Hier, le président argentin Mauricio Macri a fait une série d'annonces et il a choisi pour cela un contexte particulier, Caroline Vic.
Contre toute attente, le président Macri est apparu dans une vidéo filmée avec un portable, au son à peine audible, chez une famille de Buenos Aires. Dans la salle à manger, le chef de l'État discute avec le couple et annonce ainsi, de manière très informelle, comment il compte lutter contre le fléau de l'inflation qui s'élève à 4% par mois. Parmi ces mesures, des prix congelés sur plus de 500 produits dans les supermarchés, des réductions sur les médicaments pour les plus vulnérables, la limitation de la hausse des tarifs de l'électricité, du gaz et des transports en commun, ainsi que des aides aux PME pour éviter de les asphyxier. Juan Bonfiglio est sociologue et spécialiste de la pauvreté. Selon son dernier rapport, plus de 12 millions d'Argentins sont pauvres, soit 33% de la population. Pour lui, les mesures annoncées ne règlent pas le problème.
Ce sont des politiques compensatoires qui contribuent à éviter que la situation continue à se détériorer. Mais on a plus besoin de politiques à long terme qui impliquent et nécessitent de très gros investissements au niveau de l'éducation et de l'emploi. Là, ces mesures pourront au moins freiner le processus d'inflation. Mais ça ne permettra sûrement pas de régler le problème de la pauvreté.
Soulagement et répit, donc, qui ne durera que 6 mois, jusqu'en octobre, date justement de l'élection présidentielle. Des mesures qui, en plus de réduire les chiffres de l'inflation annuelle, serviront aussi à redorer le blason du président en perte de popularité.
Caroline Vic depuis Buenos Aires pour France Culture. Je vous le disais en sommaire de ce journal, conservateur du patrimoine et pompiers restent à pied d'œuvre pour sécuriser la cathédrale Notre-Dame de Paris, toujours menacée en 3 points. Les experts se penchent sur le système électrique de l'édifice. Une expertise que nous décrypte ce matin Thierry Fisson, il est consultant sécurité incendie au Centre National de Prévention et de Protection.
C'est vraiment des éléments visuels qui vont permettre de définir déjà l'endroit où l'incendie aurait pu démarrer. Des traces, c'est-à-dire des murs plus ou moins noircis ou des endroits qui sont plus ou moins chauffés, donc des indications qui donnent des températures plus élevées. Si ça démarre au niveau du sol, en général, on a ce qu'on appelle un V qui se forme sur la paroi, qui peut caractériser l'endroit où a démarré. Une fois qu'on a localisé l'endroit où le feu a démarré, on va regarder à cet endroit-là qu'est-ce qui aurait pu être présent en source d'allumage et en produit accélérant ou matière combustible. Donc on va prélever des échantillons de matière, de cendres ou d'éléments qui sont là. Et on va analyser ça dans des machines spéciales, des spectrographes ou des chromatographes pour rechercher des traces de ces produits éventuellement accélérants. Au vu de l'état de la charpente, les combles, ça va être très difficile d'investiguer et d'avoir des éléments sur place.
L'enquête se poursuit donc et pendant ce temps, les promesses de dons grimpent jusqu'à 850 millions d'euros. Hier, le Premier ministre Édouard Philippe annonçait un avantage fiscal majoré pour les dons effectués par des personnes physiques jusqu'à 1000 euros. Une initiative plutôt saluée par les Français qu'a rencontré Maud Calves.
Dans l'ensemble, tout le monde est plutôt d'accord pour dire qu'il faut évidemment reconstruire au plus vite le monument. Plus il y a de moyens, mieux c'est. Jean-Marie trouve donc cet appel à donner très louable.
C'est une très bonne initiative. J'y vois un biais formidable pour retisser de la cohésion sociale. Je vais donner, oui. Je pense que c'est très important.
Lowina, elle, salue l'initiative, mais reste étonnée de la réactivité du gouvernement.
Avec tous les derniers événements, avec les gilets jaunes, etc., où visiblement le mouvement il prend du temps à avoir une réponse en fait, du gouvernement. Et là, on a déjà des décisions qui sont prises, des vraies décisions. Donc du coup, oui, c'est plutôt ça, ouais, peut-être la question qu'on doit se poser maintenant.
Autre question que Laurent se pose, pourquoi ne pas le faire pour d'autres causes ?
Je voudrais peut-être pas qu'ils oublient aussi qu'il y a d'autres chantiers importants en France et à Paris particulièrement. Je pense aux migrants particulièrement qui sont aussi aux portes de Paris et pour lesquels on ne fait pas grand-chose.
Les promesses de dons atteignent déjà plus de 800 millions d'euros. 240 proviennent d'entreprises et de particuliers. Fabrice est donc un peu surpris de cet appel.
C'est peut-être pas vraiment utile, hein. Ils vont le faire d'eux-mêmes, hein, sans avoir besoin d'un appel de l'État. Le budget, ils en auront sûrement plus qu'ils en ont besoin. Hein. Ça, il n'y a pas de problème.
Édouard Philippe présentera la semaine prochaine un projet de loi pour placer un cadre légal autour de ces dons, notamment une réduction fiscale de 75% pour les particuliers.
Édouard Philippe qui a aussi annoncé un concours international d'architecture pour reconstruire la flèche de la cathédrale. La réforme du lycée ne va pas corriger les défauts du système actuel, notamment la prédominance de la série S, la série scientifique. À 6 mois de la rentrée scolaire et de l'entrée en vigueur de la réforme, le SNES, principal syndicat d'enseignants du secondaire, publie ce matin une étude statistique. Nos confrères de France Info ont pu la consulter. Selon le syndicat, la réforme ne changerait donc rien à la hiérarchie des filières et maintiendrait les inégalités à l'école.
Les élèves doivent faire 3 choix de spécialité pour l'année prochaine. Et bien selon cette étude, ils ont tendance à reconstituer les anciennes séries, et surtout la série scientifique. Les maths, la physique et les sciences de la vie et de la terre arrivent nettement en tête des spécialités choisies, souvent combinées entre elles. Dans les lycées étudiés, 65% des élèves demandent les maths, près de 50% la physique. Pour le SNES, la réforme ne change donc rien à la prédominance de cette voie scientifique, à son prestige et à la hiérarchie entre filières. Le ministre Blanquer a pourtant encouragé les élèves à sortir des choix classiques. Pire, selon le syndicat, la réforme reproduit les inégalités existantes. Les garçons sont toujours bien plus nombreux que les filles à choisir les spécialités scientifiques, spécialités beaucoup plus souvent demandées par les meilleurs élèves que par les plus faibles. De son côté, le ministère ne communique pas de bilan chiffré, mais Jean-Marc Huard, directeur général de l'enseignement scolaire, se dit surpris par les constats du SNES.
Ce n'est pas du tout la tendance que l'on observe. Ce qu'on nous dit, c'est que les élèves utilisent véritablement la liberté qui leur est donnée de choisir parmi l'ensemble des 12 spécialités.
Ces premiers choix des élèves de seconde ne sont pas définitifs, ils peuvent encore changer d'ici juin.
Les eurodéputés vivront aujourd'hui leur dernière session plénière au Parlement à Strasbourg. Hier, ils ont voté pour que les plateformes du web retirent tous les contenus terroristes dans un délai d'une heure maximum après leur publication. Les précisions de Johanna Hochstein.
33% des contenus terroristes en ligne se propagent en moins d'une heure, d'après les chiffres de la Commission européenne. C'est pour cela que les eurodéputés ont voulu agir vite. Rachida Dati, eurodéputée française, Les Républicains.
Pour l'Australie, avec l'attentat de Christchurch, la vidéo de cet attentat, qui était quand même extrêmement barbare, a été diffusée au bout de 29 minutes, plus de 1,5 million fois. Et donc il est important de faire retirer ces contenus en moins d'une heure pour éviter la contamination et la propagation de ces contenus haineux, criminels, barbares et terroristes.
Une plateforme devra donc retirer tout contenu à caractère terroriste dans un délai d'une heure à partir du moment où elle aura reçu une injonction de retrait de la part de l'autorité indépendante désignée dans son pays. En cas de refus répété et persistant, le texte adopté aujourd'hui prévoit des sanctions financières pouvant aller jusqu'à 4% du chiffre d'affaires de l'entreprise. Sont donc concernés les textes, les images, les enregistrements audio ou vidéo qui incitent à commettre un attentat terroriste, qui encouragent le recrutement ou qui donnent des instructions pour la perpétration d'attentats. Comprenez par exemple le mode d'emploi pour fabriquer un explosif.
La météo de ce jeudi qui débute globalement ensoleillée sur l'Hexagone avec des températures qui remontent. 14 degrés ce matin à Besançon, 16 à Lille et Bordeaux, 17 à Paris, 19 à Marseille.